qu'un long tube noir vertical. Et puis, à une dizaine de mètres plus bas, il remarqua que le tube s'agrandissait beaucoup, beaucoup. En réalité, il était dans une salle. Il leva son fanal et il vit des murs lisses, un peu suintants, un plafond bien taillé et au fond, une ouverture carrée de la hauteur d'un homme. Il entra dans ce couloir et marcha, marcha. 2 heures après, il marchait encore. Où allait-il sortir, s'il sortait ?
Une croyance répandue partout dans le monde concerne les souterrains creusés par l'homme. Le mythe du souterrain de communication à grande distance est solidement établi. Si vous croyez ceux qui se sont promenés ou perdus dans ces lieux, vous vous embarquez dans des aventures extraordinaires.
J'étais à peu près sûr que j'étais au-dessus de la forêt et que j'avançais vers le château. Ma lampe faiblissait, mais je ne pouvais plus faire demi-tour. C'est alors que je vis, là, à quelques mètres, une grille. Une grille qui fermait le passage. Je ne pouvais pas aller plus loin. J'avais au moins parcouru une dizaine de kilomètres.
Oh, sûrement pas.
Je savais que dans la région...
Les souterrains de communication à grande distance n'existent que dans l'imagination des auteurs. Les souterrains des histoires médiévales ne font que quelques dizaines ou centaines de mètres pour désenclaver un château. Pourtant, donnez-moi la main pour marcher dans le noir. Je vous emmène ce soir dans les villages troglodytiques du Saumurois.
Je fus bien étonné de voir, pendant 4 heures, des maisons construites dans les rochers et sans interruption. C'est un coteau qui de Montsoreau continue jusqu'à Saumur, qui est roc, où on a pratiqué des maisons taillées dans la pierre. Elles sont fort propres et assez vastes. La route passe entre cette rangée de grottes et la Loire. Les cheminées sont creusées dans le roc, comme les fenêtres.
C'est un voyageur de 1786 qui dit cela. Aujourd'hui, notre étonnement est tout aussi grand devant ce patrimoine souterrain original, insolite, riche, envoûtant. L'Anjou, on le sait depuis longtemps, est le jardin de la France. La Loire, en s'ornant de châteaux princiers, est devenue le boulevard des rois. Ce que l'on sait moins, c'est que ce qui est sous la terre n'a rien à envier à ce qui fait courir les touristes du monde entier. Tout ça pour dire que si vous allez visiter les châteaux de la Loire, sans prendre le temps de visiter les troglodytes saumurois, vous êtes inexcusable et vous vous privez d'une des grandes curiosités de notre pays. J'exagère. Ce soir, vous allez en avoir un avant-goût. Entre Montsoreau et Saumur, la Loire a l'air de musarder, et ses coteaux taillés à pic, comme des falaises, d'un blanc jaune éclatant, ont d'étranges fenêtres pour la regarder passer. Ces fenêtres, ce sont les habitations troglodytes, les départs de galeries, les souterrains refuges, les églises invisibles. Ici, au XVIIIe siècle, presque toute la population était troglodyte. Avec M. Jacek Rewerski, géographe et spécialiste du patrimoine troglodytique, nous visitons cette étrange région. Le mot « troglodyte » vient d'un mot grec qui signifie « entrer dans une cavité ». Mais il ne faut pas confondre le troglodyte avec l'homme des cavernes. Quelle est la différence entre les deux, monsieur Reversky ?
Alors, entre les deux, d'abord je vous dirais que les hommes de cavernes n'ont jamais existé non plus. Ils habitaient en abri sous roche, à l'entrée des grottes, mais pas dans la grotte. La grotte, c'était un monde en plus secret, obscur. En fait, c'était le premier temple de l'humanité, tel que les chercheurs, les préhistoriens aujourd'hui cherchent à mettre en valeur justement cette chose-là, comme la grotte de Lascaux notamment. Alors du coup, la distinction que je donne aux troglodytes par rapport aux hommes préhistoriques, disons les abris sous roche, ou ce qu'on dit de caverne, c'est qu'un troglodyte, il creuse son habitat, tandis que l'homme préhistorique, il utilisait un abri sous roche, ce que la nature lui a donné. Donc, un habitat ou une cavité troglodytique, c'est un volume créé dans la masse pour habiter, mais aussi pour d'autres utilisations sociales, qu'elles soient religieuses, économiques ou autres.
Vivre sous la terre, c'est une notion qui renvoie à des archétypes, non ?
Totalement. Et d'ailleurs, lorsqu'on rencontre encore des troglodytes, et il y en a en Touraine et en Anjou, souvent des personnes âgées, mais parfois aussi des plus jeunes, des artistes, ces gens apprécient le fait d'habiter sous terre, parce qu'il y a une ambiance, une atmosphère assez particulière. Et lorsqu'on voit un habitat, les formes courbes, on n'a pas des parois plates, des angles droits. En fait, on pourrait se poser la question, quelle est l'utilité de ces angles droits, des murs plats ? Peut-être poser un placard contre, mais on peut creuser un placard aussi, de toute façon. Et puis les formes courbes, ovales, sont beaucoup plus douces, moins agressives.
Et puis plus naturelles aussi.
Plus naturelles, bien sûr, aussi. Tout d'abord, purement culturel. Nous avons parlé, par exemple, du monde indien, du sous-continent indien. Dans ce contexte, là-bas, l'espace souterrain, la grotte, la roche, est perçu totalement différemment. C'est un espace de pureté, bénéfique, et où vivent les dieux. Chez nous, c'est la cave, la caverne, la grotte, donc c'est Hadès, c'est l'enfer en fait, l'espace des morts.
C'est un lieu de sépulture aussi.
C'est un lieu de sépulture aussi, bien sûr, alors que dans le monde indien, on n'enterre pas, donc l'approche est totalement différente. Mais là, c'est notre civilisation judéo-chrétienne qui nous impose cette façon de voir. Il semble même dans le monde romain, antique, on vivait en troglodyte dans tous les bassins méditerranéens.
Beaucoup de ces habitations enfouies ont été des lieux de culte, des lieux de réunion pour les sectes, les sociétés secrètes, les partis interdits. Là, nous sommes sur le versant noir du troglodytisme.
Versant noir, peut-être oui et non. Enfin, de toute façon, à un moment donné ou un autre, je dirais toute religion ou secte est plus ou moins persécutée, donc elle cherche à se réfugier. Si vous prenez par exemple l'exemple des guerres de religion ici, les uns ou les autres, ou ceux qui n'étaient pas forcément contre ou pour, s'ils voulaient se réunir, il fallait qu'ils se cachent. Effectivement, en Anjou, il y a une caverne appelée caverne sculptée à Denzé-Soudoué, mais où en principe, on aurait eu un lieu de regroupement de libres penseurs, au moins, puisqu'on retrouve des traces de toutes les religions présentes dans la région, aussi bien des protestants, des catholiques et des juifs. Donc tout ceci est présent sur place, tout en sachant qu'à la surface, la rencontre ne pouvait pas se faire.
Il y a donc aussi les églises, je pense à ces grandes églises d'Éthiopie aussi.
Alors, donc, on est dans la continuité de ce qui s'est passé, notamment en Égypte, l'érémitisme, au départ ou au Proche-Orient. Rien n'est assez cher pour faire quelque chose pour Dieu. En ce qui concerne les églises creusées comme en Inde, ou je dirais les tombes, puisque parfois les cénotaphes, enfin des tombes-temples, comme à Petra notamment, c'est à peu près la même chose. Pourquoi ? Je pense qu'une des explications se trouve dans l'explication simplement des pyramides, notamment égyptiennes. Il n'y a rien de plus durable que la montagne, en apparence, en fait, du moins à l'échelle humaine. Si on creuse...